Vous écoutez RTL.
Anaïs Bouton et Thomas Hugues, bonjour.
Bonjour Christelle et merci. Alors écoutez-moi bien, si je vous dis qu'il a traversé 9 décennies, que c'est un personnage préféré des enfants, qu'il est plus connu que la Tour Eiffel, non, c'est pas Thomas Hugues. Je vous parle de Mickey, je vous parle de la petite souris qui est née
que je m'étais pas
en
fait
novembre
dans cette émission.
1928. Les secrets de Mickey, c'est tout à l'heure à 14h30. Dans votre curiosité sur RTL.
Et tout de suite, l'incroyable histoire de la médecine.
RTL.
Aujourd'hui, j'ai pris une décision grave.
Quoi ?
À l'hôpital Velpo ? J'ai décidé de vous muter à l'hôpital Velpo.
Quoi ? À l'hôpital Velpo ?
Oui, vous avez bien entendu.
Mais pourquoi ?
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Je ne comprends pas.
Madame Lorigan ne devait recevoir des soins qu'à base de paracétamol. Et non pas d'acide acétylsalicylique. D'acide acétylsalicylique.
La curiosité est un vilain défaut.
Jamais je n'aurais prescrit de ce médicament.
La médecine version inconnue et la musique du générique, vous l'aurez retrouvée de la série Dr House pour lancer cette émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. On est ouvert jusqu'à 15h sur RTL pour dévoiler le contenu de nos tiroirs. J'ai donc à mes côtés Anaïs Bouton.
Bonjour Anaïs. Bonjour Thomas, salut les curieux. Alors science, aventure, grand destin, saga musical, nature, vie quotidienne. Notre curiosité est sans limite et sans tabou et ça vous allez pouvoir le voir et notamment la semaine prochaine, je ne vous en dis pas plus.
Allons
Thomas,
bon, un teaser.
Ça tombe bien. Pour découvrir l'histoire de la médecine.
Sans tabou, évidemment. Bonjour Jean-Noël Fabiani.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à vous.
Vous êtes chirurgien cardiaque, professeur d'université, passionné par l'œuvre de vos prédécesseurs, on peut dire ça comme ça. On va commencer par les progrès de l'anesthésie. Alors cette info, ou pas d'ailleurs, qui nous a beaucoup surpris à l'équipe de la curiosité, un homme de 88 ans qui a subi une opération du cœur sous hypnose. C'est vraiment possible ça ?
Non, je crois vraiment que c'est une fausse nouvelle. En revanche, l'hypnose peut préparer à une anesthésie, mais elle n'assure pas une anesthésie complète, surtout pour une opération, comme il était rapporté, de chirurgie cardiaque.
Alors, donc ça veut dire que l'hypnose, ça peut être un complément, c'est ça ?
Une préparation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prémédication. Avant de faire l'anesthésie, on fait une prémédication, et là, il semblerait que l'hypnose ait apporté des résultats intéressants.
Et ça permet de limiter la quantité de médicaments, d'anesthésie qu'on va donner.
Exactement.
D'accord, bien compris.
Alors, lutter contre la douleur, c'est un des défis majeurs que vous racontez dans votre incroyable histoire de la médecine. On s'est régalé à lire ce livre, publié sous forme de BD, aux éditions Les Arènes. On va d'abord faire la liste de ce qui marchait pas ou pas beaucoup. Quelles étaient les toutes premières techniques ?
En matière d'anesthésie, d'antidouleur ?
Alors, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de techniques. On ne donnait quand même pas un coup de marteau sur la tête, comme on dit habituellement.
Surtout qu'Anaïs me regarde en disant ça.
Non. En revanche, on faisait boire une grande quantité d'alcool, un bon coup de gnôl, par exemple. Ça, c'était en effet quelque chose de très habituel. Les Chinois avaient proposé depuis longtemps la mandragore, avaient préparé d'autres substances qui semblerait quitter un petit peu le réel. Et bien sûr l'opium, qui a été utilisé pendant très longtemps. Mais ça n'était pas vraiment des anesthésiques.
Et puis, en 1844, aux États-Unis, un dentiste, Horace Wells, a fait une découverte dans de drôles de conditions. Est-ce que vous...
Ah oui, parce que tout se passe sur un champ de foire. Et alors, il est venu pour s'amuser un petit peu. Il y a ce champ de foire, il y a les baraques, dont une qui s'appelle le gaz hilarant. Et sur cette boutique du gaz hilarant, il voit un de ses copains, qui s'appelle Sam, qui va respirer un grand coup du gaz hilarant. Il respire le gaz hilarant, il s'éclate de rire, et il perd un petit peu de vertige. Il va descendre de l'estrade, et en descendant de l'estrade, il ne voit pas qu'il y a un clou qui dépasse, ce clou lui déchire tout le mollet et une horrible plaie se forme. Alors, bien sûr, notre oral se précipite. Sam, tu as mal ? Il dit, mais non, j'ai pas mal, je ris. Et là, l'idée de génie, c'est que, évidemment, Horace se dit, et si c'était le gaz qui vient de respirer, qui supprimait la douleur ? Et ce gaz, c'était le protoxyde d'azote, c'est-à-dire finalement la première molécule anesthésique.
Il l'a testé après, devant de grands professeurs
Mais
de son époque.
Le lendemain, il l'a testé sur lui-même. Il a fait venir le gars qui s'appelait Dr Colton. Il l'a fait venir dans son cabinet. Il avait une dent à se faire arracher. Il demande à son assistant, arrache-moi cette dent. Il dit, oh, mais ça va faire mal, elle est incarcérée. Vas-y. Et il respire le protoxyde d'azote et il s'aperçoit qu'il n'a aucune douleur pendant cet arrachage de dents, qui était quand même très, très difficile à l'époque, hein, je vous dis tout de suite.
Alors, il faut dire, professeur Fabini, que les progrès de, l'anesthésie, et de la médecine d'ailleurs en général, se sont souvent heurtés à des réticences, à des freins, notamment d'origine religieuse. Par exemple, le dénommé James Young Thompson, qui est-il et pourquoi? Quels sont les freins auxquels il a été confronté?
Alors lui, il travaille à Édimbourg, il est accoucheur, nous sommes dans les années 1850, et il découvre que le chloroforme est aussi une molécule qui pourrait permettre à ces jeunes femmes d'accoucher, parce qu'il avait, il voulait essayer l'éther, mais comme à l'époque, je vous rappelle tout de même que les accouchements qui se passent parfois la nuit, et que l'éther avec les éclairages à la bougie, c'est quand même pas l'idéal, il avait compris ça tout de suite. Donc il a dit que le chloroforme, ça allait être formidable. Ouais. Et il essaye le chloroforme, et en effet, le chloroforme est une molécule sensationnelle pour faire un accouchement sans douleur. Seulement, il se heurte immédiatement à l'Église catholique qui lui dit « Mais pas du tout, dans la Bible, il est écrit « Tu accoucheras dans la douleur. » Et donc, là, il y a un problème. Alors, il est
qui
sauvé.
Va faire sauter le verrou?
Eh bien, c'est incroyable, mais c'est la reine Victoria. La reine Victoria, qui était quand même à son septième enfant, se dit « Moi, j'en ai un peu assez, je voudrais accoucher dans la douleur. Ouais. » Et elle se fait accoucher selon la technique de Simpson. Et après, elle est très contente. Elle dit ouais, « Vraiment, c'était formidable, j'ai rien senti, c'est extraordinaire. » Or, la reine Victoria, en disant cela, elle a un rôle fondamental. D'accord, elle est la reine d'Angleterre. D'accord, elle est l'impératrice des Indes. Mais surtout, elle est la chef de l'Église anglicane.
Bien sûr.
Et à ce titre, elle va lever le verrou religieux des Anglicans.
Il a donné son nom à un serment, c'est le plus important, mais aussi un film, et alors à une série qui démarre dans quelques jours sur Canal, qui était Hippocrate. Pourquoi est-il encore une référence pour les médecins aujourd'hui, 2500 ans après sa naissance? On répond à toutes ces questions dans un instant sur RTL.
RTL. Je crois avoir encore pu aller plus loin que dans le film Hippocrate. Essayer de raconter l'hôpital public à travers le destin de quatre jeunes médecins. Et on rentre dans l'hôpital avec ces quatre personnages.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes coincé avec votre quarantaine. Personne ne veut prendre le risque de la lever.
Non, on va rester là. C'est le principe d'une garde. Et s'il y a une pathologie, je ne peux pas prendre en charge. Je fais comment? J'appelle le 15.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Alors Hippocrate, la série télé qui démarre bientôt, adaptation du film réalisé par Thomas Little. Ça, c'était ce qu'on vient d'entendre, mais qui était Hippocrate? C'est une des questions qu'on pose à notre invité, le professeur Jean-Noël Fabiani, professeur émérite, chirurgien cardiaque, prof d'histoire de la médecine à l'Université Paris-Descartes. Qui était-il, ce fameux Hippocrate? Et alors, qu'est-ce que c'est que son fameux serment?
Alors Hippocrate, bon, c'est le père des médecins quand même. C'est celui qui, le premier, 400 ans avant Jésus-Christ, a finalement séparé la magie et la médecine. Donc il a un rôle très important, d'abord médical. Il dit faut analyser les malades, il faut faire des observations, fini de croire que la maladie ne vient des dieux. Il a vraiment un rôle d'abord médical.
Avec puis, 60 tomes ou quelque chose comme ça, une description très très précise.
Il était prolixe. Le fameux corpus hippocratique, on n'est pas sûr que tous les livres soient lus, mais enfin il y a 60 tomes en effet sur la médecine.
Et donc ce fameux serment.
Alors, d'où vient ce serment? D'un seul coup, alors qu'il a jusqu'à présent travaillé surtout sur la médecine, Hippocrate, à un moment de sa vie, eh bien, va se mettre à s'intéresser à la déontologie et en particulier à la place du médecin dans la société. On pense que la mort de Socrate a été importante dans ce changement de vocation, en quelque sorte, d'Hippocrate, parce que le jour, le moment, la fameuse moment où Socrate meurt, il vient de boire la ciguë et il dit une phrase, la dernière phrase qu'il prononce, Socrate quand même, c'est quand même un des monstres de la philosophie antique, et il dit « Nous devons un coq à Asclépios, payez-le, ne l'oubliez pas. »
Or le coq, il dit ça à Hippocrate?
Non, il dit ça aux gens qui sont autour de
d'accord.
lui, qui ne comprennent pas. Et qui donc vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il fallait que le coq était l'animal que l'on sacrifiait à Esculape, c'est-à-dire le dieu de la médecine? Ouais. Il faut le payer, il ne faut pas l'oublier, mais pourquoi il dit ça? Et alors là, Hippocrate se met à réfléchir en se disant, est-ce qu'il n'a pas voulu nous transmettre un message comme quoi les médecins, nous avions un rôle à jouer dans la société et que finalement, comme nous sommes capables de faire des choses qui sont en conflit avec ce que font les dieux, jusqu'à peut-être ressusciter les morts, entre guillemets, d'accord. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait une déontologie absolument parfaite pour le faire? Et c'est là qu'il fait ce fameux serment qu'aujourd'hui encore, mais c'est-à-dire plus de millénaires après, nous prêtons encore tous.
Mais c'est ça qui, moi, me surprend. Bah, pourquoi on n'a jamais fait mieux en matière de déontologie de la médecine depuis Hippocrate.
parce qu'Hippocrate, il donne les grands principes, les grands principes de ce que doit être un médecin. C'est-à-dire le secret médical, ne jamais rien dire de ce que l'on a vu lorsqu'on a visité quelqu'un. Ne jamais aider les gens à faire, à les tuer en l'occurrence, ou à donner des poisons. Il était bien entendu à son époque contre l'avortement, mais ça c'est une autre époque évidemment. Il a aussi un rôle, il dit que les médecins doivent avoir dans la société un rôle et qu'ils doivent être éthiques dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de vivre dans la cité.
Soigner
et ainsi
les
de suite.
Pauvres aussi.
Soigner les pauvres et avoir le respect de ceux qui vous ont enseigné comme si c'était vos propres parents. Ça, c'est dans le serment d'Hippocrate.
Et donc, les médecins aujourd'hui, vous l'avez fait, vous ?
Bien entendu.
Et c'est à quel moment des études de médecine ?
À la fin des études médicales, quand on a fait sa thèse, on vient de soutenir sa thèse devant le jury des professeurs habillé en toge, et on est reçu à sa thèse, le jury a délibéré, et on a le droit de prêter le serment d'Hippocrate, comme si on entrait en quelque sorte dans une confrérie.
Il faut l'apprendre par cœur ou c'est...
Non, on peut le lire quand même, parce qu'il est assez long. Et puis il a été un peu modernisé depuis le texte initial d'Hippocrate, mais tous les médecins prêtent ce serment.
Alors vous racontez cette histoire incroyable de la médecine dans une BD publiée aux éditions des Arènes avec des dessins signés Philippe Bercovici. On y découvre que le statut des chirurgiens a radicalement changé grâce à Louis XIV et à une maladie mal placée, je dirais. Récit à venir sur RTL.
Docteur, vous me reconnaissez ?
RTL.
J'étais déjà venu l'année dernière, m'aviez donné la grippe. J'étais très content, je l'ai gardé tout l'hiver.
La curiosité est un vilain défaut.
Monsieur, les médecins, ils s'en foutent, ils sont pas malades, hein, la plupart.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Vous avez le cancer du bras droit, il vous reste 8 jours à vivre. Hé, 8 mois, ça t'écorcherait pas la gueule, non ?
Les médecins, on découvre l'incroyable histoire de la médecine dans notre émission sur RTL avec notre invité, le professeur Jean-Noël Fabiani. C'est aussi le titre de votre livre publié aux Arènes. Avec vous, on peut remonter aux origines. J'imagine que la médecine est vieille comme l'humanité, mais quelles sont les plus anciennes traces de médecine découvertes à ce jour ?
Alors, on a découvert des choses d'abord chez les hommes des cavernes, tout simplement. Ouais. On s'est aperçu que même dans les tribus de Néandertal, il y avait des petites poches, en quelque sorte, en fait, en peau de loutre, vraisemblablement parce que c'est une peau imperméable, où il y avait des petits sachets où on conservait des graines. Et ces graines avaient sans doute, étaient utilisées sans doute comme des graines médicinales. Mmh. Ce sont des graines que l'on connaît très bien maintenant. Hein. Vous avez un petit peu de sarriette, un petit peu de thym, un petit peu de... qui étaient considérés comme ayant des effets bénéfiques vraisemblablement déjà à cette époque. Donc les herbes ont toujours été un traitement, une médecine.
Alors Jean-Noël Fabiani, vous disiez tout à l'heure que les barbiers chirurgiens étaient méprisés par les médecins savants, mais en fait c'est grâce à Louis XIV que tout le statut des chirurgiens va changer. Tout commence par une royale douleur. Laquelle ?
Alors une royale douleur, c'est-à-dire que Louis XIV, dont l'hygiène corporelle n'était pas absolument un modèle, eh bien, aller à la chasse très fréquemment, c'était un de ses grands plaisirs, et un jour, il avait une douleur à la fesse épouvantable qui l'empêchait de chevaucher, et il a dû consulter. Il a d'abord consulté les médecins, qui l'ont traité en lui demandant de boire de l'eau minérale, ce qui lui plaisait pas du tout. Des pommades, ça n'a pas marché. Pendant 2 ans, on le traite comme ça, médicalement. Oui, mais on commence à jaser dans le monde, et Louvois, qui est son premier ministre en quelque sorte, lui dit « Sire, on vous pense à l'article de la mort, il faudrait faire quelque chose. » Alors Louis XIV quand même fait venir qui ? Eh bien, quelqu'un qui n'était pas considéré comme un médecin, puisque ça n'est qu'un barbier, mais c'était le barbier de la cour. Il s'appelait Félix, et il se fait examiner devant toute la cour. Il remonte il baisse ses chaussures, il remonte son manteau, et il montre son derrière à tout le monde. Et Félix regarde ça et lui dit « Sire, oui, il faut faire une opération, mais ce sera l'opération cruciale. » Alors Louis XIV se retourne et lui dit « Écoute, Félix, c'est une opération dont tu as l'habitude, il faut que je m'entraîne, sire. »
Eh bien, sur qui va s'entraîner alors ?
Eh bien, il lui dit « Mes galères te sont ouvertes, mon cher Félix, tu pourras t'entraîner. » Il faut dire que la maladie était très répandue à l'époque, donc peut-être qu'il a pu utiliser ses talents sur des galériens. Et en tout cas, il s'entraîne et
il a testé. Et un jour, l'opération arrive.
L'opération.
Avec les mots d'aujourd'hui, ça s'appelle comment ? Une fistule anale, c'est ça ?
C'est une fistule anale, absolument. Bon, c'est quelque chose d'assez sérieux. Hein. Ça fait communiquer l'intérieur du canal anal avec la fesse. Oui. Donc, il va falloir mettre tout ça à plat et l'ouvrir. Alors, Félix fait fabriquer des instruments spéciaux pour le roi. Il fait fabriquer un bistouri, il fait fabriquer un spéculum pour bien voir et tout ça. Louvois est présent, il tient la main du roi, il paraît que les ongles du roi lui ont pénétré la paume tellement il a eu mal, parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, n'oublions pas. Alors, il va subir ça, le pauvre Louis XIV. Et on lui fait l'opération, et Félix lui fait l'opération. L'après-midi, le roi, il était quand même formidable sous Louis XIV, il y avait un conseil des ministres. Or, à ce conseil des ministres, tout le monde est debout, sauf le roi qui est assis. Le contraire lui aurait peut-être fait plaisir. Eh ben non. Il s'assoit, le chapeau sur la tête, et il préside le Conseil des ministres.
Et que fait Madame de Maintenon ?
Alors, Madame de Maintenon, vous comprenez, c'est son épouse, morganatique certes, mais c'est son épouse. Alors, elle a toutes ces demoiselles hein, qui, dans son pensionnat, elle demande à Monsieur Lully de composer un chant pour soutenir son mari.
Tiens, écoutez cet air, ça va vous rappeler quelque chose. Pas difficile, c'est l'hymne britannique.
Alors, c'est pas l'hymne
pas
britannique.
Encore, mais...
C'est pas encore l'hymne britannique. C'est l'hymne pour sauver le roi de son opération sur le derrière.
Mais ça va devenir l'hymne britannique.
Eh oui, parce que là passe Jacques de Stuart qui dit « Je vais devenir roi d'Angleterre parce que là, pour le moment, il est en exil. Et quand je serai roi d'Angleterre, cet air est si beau que je le prendrai comme hymne national. » Autrement dit, tous les Anglais chantent le rythme national de « God save the Queen » actuellement. En l'honneur, finalement, des fesses du roi Louis XIV.
Très bonne histoire. Merci beaucoup. Vous allez nous en raconter encore une ou deux, Jean-Noël Fabiani, puisque continue de découvrir l'histoire incroyable de la médecine. Et puis juste après...
Ben, en fait, les 90 piges de Mickey, Thomas.
Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur...
Boulard, Luc Boulard.
Ah oui, monsieur Boulard, oui.
Hi, honey, it's me.
Thomas Hugues. Today. Anaïs Bouton.
Bon, voilà, nous avons un léger contretemps avec vos greffes.
C'est-à-dire ?
Il va falloir les...
La curiosité est un vilain défaut.
Mais arrêtez de marmonner, je ne comprends rien.
Il va falloir les rendre.
Mais qui ?
Bah, celui qui vous les a donnés. Il s'est réveillé ce matin en hurlant partout. Oui, on va voler mon foie, on va voler mon tibia, c'est Luc Boulard, il faut me les rendre. Voilà.
RTL.
C'est absurde et c'est drôle, sketch avec Jonathan Lambert et Cadmerade, le don d'organes. Voilà, on est toujours avec le professeur Fabiani qui nous fait découvrir l'histoire de la médecine, parfois baroque aussi, il faut bien le dire. Allez, on file au Moyen-Âge pour terminer. Quel était l'acte médical le plus pratiqué par les barbiers ?
Bien finalement, c'était la saignée, parce qu'ils faisaient la saignée sous les ordres des médecins. Mmh. Et pourquoi il fallait faire des saignées ? Eh bien, ça date d'Hippocrate dont on parlait tout à l'heure. Hippocrate pensait que la santé, c'était l'équilibre entre les humeurs, entre le sang, la bile, l'atrabile et la lymphe. Et quand il y avait une maladie, il fallait chasser les mauvaises humeurs, ce que Molière appelle les humeurs pécantes. Et pour chasser ces mauvaises humeurs, il fallait donc faire une saignée, et puis aussi un lavement. Saignée, lavement, c'était la médecine qui existait au Moyen-Âge, à la fin du 17e siècle.
Est-ce qu'on pratique encore la saignée aujourd'hui dans certains cas, j'imagine, très rares, mais est-ce que ça arrive ?
On l'a pratiqué assez longtemps, jusqu'au 19e siècle, voire au début du 20e siècle. Mais maintenant, on utilise, bien entendu, les diurétiques en injection intraveineuse. Mmh. Quand vous avez besoin de limiter, en quelque sorte, la quantité de sang, et bien, on faut faire pipi, quoi, tout simplement. Ben voilà. Ça marche aussi bien.
Il y a un mot qu'on n'a pas dit, c'est quand même important, quand on a raconté l'opération de Félix, le barbier de Louis XIV, ça a joué un rôle important pour l'avenir des chirurgiens en France. Pourquoi ?
Eh bien parce que, pour le remercier, le roi lui a dit « Félix, qu'est-ce que vous voudriez pour vous ?» Alors Félix, on lui avait donné des sous, un titre de noblesse, et Félix, il devait être, on connaissait très peu de choses de lui, mais il devait être bien ce type-là. Il lui a dit « Écoutez, sire, je voudrais que pour ceux de mon état, les barbiers, qui sont capables d'apprendre le latin et d'assister aux cours à la faculté, nous puissions devenir médecins et chirurgiens, donc être des médecins qui opèrent. » Et c'est grâce à ça que le Louis XIV et surtout ses successeurs ont permis le monde des chirurgiens, y compris universitaires. C'est pour ça que je peux vous parler aujourd'hui.
Voilà. Donc vous faites partie
chirurgien.
Donc il fallait remercier Félix.
Exactement.
Et joyeux Noël aussi. L'incroyable histoire de la médecine, c'est publié aux éditions Les Arènes BD. Merci beaucoup, Jean-Noël. Fabiani.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.